cours de philosophie de la matière par le père Philippe à Rimont, le 9 décembre 1988.
J'ai demandé qu'on essaie de préciser exactement le point de vue de la théoria et paideia. Alors il semble, c'est toujours très difficile, hein, puisque il faut le comprendre à partir d'Aristote. N'est-ce pas ? En tout ordre de connaissance et de recherche, la plus simple comme la plus haute, il semble qu'il y ait deux sortes d'attitudes. On nommerait bien la première connaissance de l'objet, épistémène tou pragmatos, donc science, connaissance scientifique de la réalité, et l'autre, une sorte de culture. Paideia, Tina. Je ne crois pas que culture corresponde à Aristote. Alors c'est plutôt connaissance expérimentale. Vous voyez, épistémé pour Aristote n'est pas la connaissance expérimentale. C'est la connaissance des causes. Ça c'est très net. Alors on voit bien ce qu'il veut dire. C'est que pour toute réalité, il y a ou cette recherche philosophique, parce qu'il n'y a pas la distinction que nous faisons entre science et philosophie. Ça, c'est une distinction très moderne. Ce qui, pour Platon et pour Aristote, épistémé, c'est philosophia. C'est théoria. C'est la connaissance par les causes qui conduit à la contemplation. Si vous cherchez les causes, c'est pour contempler. Vous ne contemplez pas la réalité existante, immédiate, que vous pouvez toucher. La contemplation n'est pas le toucher pour Aristote. Je contemple cette table en le touchant, en la voyant, non. La contemplation, c'est toujours un dépassement de l'étang, comme on dirait en style heideggerien. De la réalité telle que de la pragma. Donc c'est l'épistémé de la pragma. Et puis paideia, ça semblerait connaissance expérimentale, connaissance singulière, concrète. Vous voyez ? Donc la description que vous pourriez donner. Je crois. Mais il y a deux types de connaissances. Hein. Donc chercher dans ce sens-là. Ayez une fiche pour les connaissances d'Aristote sur paideia. Paideia, c'est l'éducation, c'est... Vous voyez, c'est l'ordre pratique. Moi, je crois que c'est ça. C'est ce que Maritain appellerait practico-pratique. C'est paideia. Car c'est bien le fait d'un homme cultivé. Donc, d'un homme cultivé, c'est un homme, vous voyez, un homme d'expérience, c'est un homme cultivé. Pour nous, c'est pas tout à fait la même chose, hein. Un homme d'expérience. Donc, un homme qui connaît, il prend ça dans le début de la métaphysique, dans la philosophie première, où Aristote fait la comparaison entre l'homme qui est un homme d'expérience et un homme scientifique. Oui, on retrouve la même chose ici. Il faut les mettre en parallèle. L'homme d'expérience, c'est celui qui connaît les faits. Et puis l'homme de technique, l'homme de science, l'homme de théoria, c'est autre chose. Oui, l'art donne la connaissance des principes. La science donne la connaissance des principes. la théorie, la connaissance des principes. Tandis qu'il y a le mécano, dans le sens pour nous, c'est un homme d'expérience. Alors il y a le mécano, il y a l'homme prudent, il y a l'homme, c'est l'homme de la réalité courante. Vous voyez, on voit très bien ces conflits constants dans l'ordre tout à fait pratique entre le mécanicien et puis l'ingénieur. Il faut entendre le mécanicien parler de l'ingénieur. Oh, vous connaissez lui les principes. Il ne s'est pas mis la main à la pâte. Oui. Et au fond, c'est ça. L'homme qui enseigne, l'homme qui éduque, l'homme de la base. Et puis celui qui a suivi les cours, comment il fallait enseigner, comment il fallait éduquer. Il connaît les principes. On voit très très bien ça. C'est Aristote touche là une distinction qui est encore réelle actuellement. Oui.
Est-ce que c'est un peu aussi la distinction que fait Maritain entre science de la constatation et science de l'explication, qui est descriptive?
La science descriptive, l'aspect descriptif, c'est la constatation. Oui. Et puis l'aspect de la recherche des principes. L'homme des principes, si vous voulez. L'homme des causes, l'homme des lois. Vous verrez ça au point de vue droit aussi. Vous voyez, l'homme de la jurisprudence. Très attentif à ça. On dira les anglo-saxons. Puis les français, les latins, sont les hommes de loi. Il y a nettement deux attitudes très différentes. Je vous dis, ça se voit très très fort dans l'enseignement. Il y a l'homme des principes, il faut, pour enseigner, il faut ça. Puis celui qui est habitué. Alors, il ne s'en fiche pas des principes, mais c'est la connaissance pragmatique de la réalité.
Est-ce que la méthode est au-delà des descriptions?
Ah oui, oui. La méthode pourrait se trouver des deux côtés. Il y a des méthodes pratiques, qui sont des voies, et puis des méthodes plus spéculatives. Vous voyez, la méthode, c'est le fruit, je crois, d'une communication aux autres, ou d'une recherche personnelle. C'est plus logique. Mais il y a une logique pratique et une logique spéculative. C'est pour ça que méthode ne divise pas. Vous voyez, parce que des gens qui sont dans le point de vue de la païdéia peuvent avoir des méthodes. C'est comme, vous voyez, les vieux professeurs, c'est comme ça qu'on fait. Ils sont habitués à ça. C'est comme ça qu'on fait. Il ne faut pas changer. Ah, vous venez voir avec vos idées. Vous venez de la Sorbonne, vous avez des idées toutes faites. Et vous verrez ce que c'est. Hein. Au bout de quelques temps, vous serez bien obligé de changer. Vous voyez. De sorte que même la païdéia vous donne des méthodes. Vous voyez, qui sont des méthodes tout à fait pratiques. C'est comme ça qu'on cherche. On ne cherche pas autrement. Et puis la méthode peut se trouver au niveau spéculatif. Oui. C'est pour ça que la division, c'est plutôt théoria et païdéia. Alors, c'est bien le fait, je relis, c'est bien le fait d'un homme cultivé que d'être apte à porter un jugement qui tombe juste sur la manière, correcte ou non, suivant laquelle on fait un exposé. Alors, vous voyez, c'est donc un homme pratique. Et là, c'est déjà une méthode, ça, vous voyez. C'est une méthode pratique, ça. La manière dont on expose. C'est même à ce signe que nous reconnaissons la culture générale. Vous voyez bien, la culture générale. Et le résultat de l'éducation est précisément cette aptitude. Alors, culture, j'aime pas beaucoup. On peut dire qu'une culture, c'est... La culture, c'est quelque chose, pour moi, beaucoup plus vaste. Une culture, c'est l'expérience et c'est la théorie. Une culture est faite de tout ça. La culture, c'est plus le milieu dans lequel on est. Vous voyez ? Tandis que théoria et païdéia représentent deux orientations de l'homme. Je crois que c'est ça qu'Aristote veut montrer. Deux orientations. Et dans ces deux orientations, on peut inventer des méthodes.
Maritain, les bons sens, le sens commun.
Chez Maritain, le sens commun, c'est comme le père Garrigou ou Lagrange. C'était la philosophie du sens commun. Alors, ce sont des termes qui ne sont pas très philosophiques. Oui, qui sont ce que dire que la philosophie, Aristote et la philosophie du bon sens, c'est pas tout à fait vrai. Mais le bon sens est pris dans un sens plutôt cartésien, c'est-à-dire l'homme qui n'est pas un idéaliste. Oui, c'est ça. J'aime mieux dire philosophie de l'expérience. Parce que là, on sait le point de départ. Avec cette distinction toutefois que nous reconnaissons, tel homme capable de juger, lui tout seul, pour ainsi dire, de toute chose, tandis qu'un autre ne sera compétent que dans un domaine déterminé. C'est-à-dire, il sait qu'il est compétent que dans ce domaine. C'est ça le prof de la science. Un vrai scientifique ne juge jamais de tout à partir de la science, comme un artiste. Tandis que l'homme d'expérience, il sera facilement dire, mais oui, alors évidemment, il faut faire un petit peu attention parce que on reverrait les sophistes là. Les sophistes savent, du moins veulent, juger de tout. Et je ne crois pas qu'Aristote regarde ici en premier lieu les sophistes. Il regarde plutôt la païdéia. Alors, évidemment, ce sera assez proche du bon sens de Maritain que Père Garrigou. Sous ce point de vue-là. Je crois que Païdéia est plus vaste que le bon sens de Garrigou et de Maritain. Et le bon sens de Maritain et Garrigou serait impliqué dans la Païdéia. Je crois. C'est pour ça que j'aime mieux cette distinction, vous voyez, qui reflète plus le point de vue une connaissance descriptive, une méthode descriptive et une méthode d'analyse scientifique. Vous pouvez, au plan descriptif, faire des grandes synthèses qui regardent tout, l'évolution. C'est pas scientifique. Mais la science analyse et donc sait qui a un domaine particulier. Un vrai savant ne déborde pas sa méthode. C'est-à-dire, je suis compétent dans ce domaine-là, pas dans les autres. Ça, c'est toujours la réaction du savant. Et ça doit être la réaction du philosophe. Le philosophe dit, en tant que philosophe, je vous dis ça. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, en tant que philosophe, du point de vue de l'homme? Sous le point de vue de l'homme, je peux vous dire ça. La bioéthique ou l'éthique humaine. Ce serait la distinction qu'on ferait. Vous voyez ? La bioéthique, c'est une éthique très particulière qui regardera le point de vue biologique. Sous le point de vue de l'éthique humaine, on juge la bioéthique. Et une véritable bioéthique doit être soumise à l'éthique humaine, philosophique. Il est donc clair que dans la recherche sur la nature, il faut poser un certain nombre de notions comme règles d'après lesquelles on appréciera la forme de la démonstration, sans se demander comment les choses sont en fait de cette manière ou autrement. Oui, j'entends par exemple, on va donner ici l'exemple, soyons attentifs à l'exemple, j'entends par exemple la question de savoir s'il faut prendre chaque substance à part et la déterminer en ne considérant qu'elle. Ainsi, étudier la nature de l'homme, du lion, du bœuf ou d'autres êtres. En les isolant, en les prenant isolément. Ou bien, s'il faut auparavant réunir dans un exposé général les traits communs à tous. Réunir dans un... Vous voyez, les propriétés ou la substance. Ça, c'est très net. les propriétés, tous les animaux qui courent, tous les animaux qui sont bipèdes, tous les animaux qui sont quadrupèdes, tous les animaux qui ont mille pattes. Et ça, c'est les propriétés. Tous les animaux qui rient, tous les animaux qui ne rient pas, c'est les propriétés générales. C'est pas la substance, c'est les propriétés. On décrit les propriétés, on analyse les principes. Là, c'est tout à fait net. Pour Aristote, c'est très net. Beaucoup de traits, en effet, sont communs à plusieurs genres, différents d'ailleurs les uns des autres. Sommeil, respiration, croissance. Tous les animaux qui dorment. Et l'homme est un animal qui dort. Est-ce qu'il dort plus que les autres animaux? Ça reste à voir. Ça dépend lesquels. Décroissance, mort, et avec cela, tout le reste en fait des propriétés et des états. Et donc, une science générale regarde les propriétés des faits concrets. On n'abstrait pas. Pas idéia. Les singuliers maintenant seraient obscurs et vagues. Donc, les signalés maintenant seraient obscurs et vagues. Il est évident que si nous traitons isolément des diverses espèces, nous devrons répéter souvent les mêmes choses. C'est sûr. Je prends que la vache dort comme ça, l'homme dort autrement. Est-ce que la vache dort sur le côté, ou à plat ventre, ou sur le dos? C'est des détails du sommeil de la vache. Chacun des traits dont nous venons de parler se rencontre chez les chevaux, les chiens et les hommes. Si donc on examine isolément ce qui leur appartient, on sera forcé de répéter souvent, autant de fois qu'il y a d'animaux d'espèces différentes, auxquels conviennent ces traits, lesquels, en eux-mêmes, ne comportent aucune différence. Le sommeil. Il y a la situation dans le sommeil. Parce que dans le sommeil, le corps reprend ses exigences propres de corps. Tandis que lorsqu'on est éveillé, le corps est sous la mouvance de l'âme. C'est pour ça qu'il est debout. C'est grâce à l'âme que le corps est debout. Quand l'âme dort, le corps immédiatement s'étend. Et s'étend de diverses manières. C'est très bien. Quand vous cherchez le sommeil, vous voyez, c'est très important ça. Je crois que quand on cherche le sommeil, le sommeil, j'ai une peine énorme. Eh bien, la situation du corps joue beaucoup. Si on était un tout petit peu intelligent, alors on prend des somnifères, c'est idiot. On oublie que le corps doit prendre sa situation d'un corps qui dort. C'est pas commode aussi, quand on est énervé, de faire que l'âme n'est plus présente dans le corps, parce qu'elle est énervée. Tout est l'effet du sommeil qui devrait se faire, ça. Les gens qui ont beaucoup de peine à dormir, qu'ils fassent l'étude du sommeil. C'est comme ça qu'ils se mettront à dormir. Très, très important. Il faut voir ce que dit Aristote ici, n'est-ce pas ? Ne comporte aucune différence. Il se peut pourtant que ce qu'on désigne d'un seul nom se différencie suivant les espèces. Ainsi, la progression des animaux, elle n'est pas en effet d'une espèce unique. Car vol, nage, la progression, vous voyez, c'est la marche, hein, c'est la manière de marcher. Vol, nage, marche, reptation sont choses différentes. C'est pourtant toujours le déplacement dans le lieu. C'est le mouvement local. Mais le mouvement local, ça ne fait pas la même chose quand on vole, quand on nage, quand on marche. Et la reptation. Il ne faut donc pas rester dans l'incertitude sur la façon de conduire l'examen. C'est la méthode. J'entends sur cette question de savoir s'il faut commencer par des considérations communes suivant les genres, et passer en dernier lieu à l'étude de ce qui est propre à chacun. Ou bien, s'il faut immédiatement examiner chaque espèce en particulier. La grande question. Et question de méthode, là. Ce point n'est pas encore déterminé. Non plus que le suivant. C'est intéressant, ça. Comment on entre en philosophie? Parce que c'est ça, comment on entre en philosophie? Est-ce que vous commencez en philosophie en faisant une métaphysique in generali, in communi? Ou est-ce que vous faites une métaphysique in speciali? Distinction fait Wolf. Wolf commence sa métaphysique in communi. Puis après, in speciali. Est-ce que c'est juste? Ou est-ce que c'est une distinction qui se prend du conditionnement? Vous voyez? C'est ça qu'Aristote touche. Vous comprenez? Comprenez-vous notre conditionnement? Nous avons les prédicables. Les cinq prédicables. Les cinq modes universel. Ça, c'est le conditionnement humain. Le genre. Qui est le plus fondamental, le plus commun. Alors, faut-il commencer toujours par le genre? Vous saisissez la quidité ex parte materiae. Vous saisissez la quidité du côté de la matière. C'est le genre. Vous pouvez faire une étude du genre, le plus commun, le genre animal, d'où il passe. Puis ensuite, vous passez à la différence spécifique, que vous ne saisissez jamais, puisqu'on la saisit que pour l'homme. Mais alors, au fond, vous saisissez les propriétés. Les propriétés. Et tout de suite, les propriétés. Vous saisissez les situations du corps, vous saisissez la manière différente dont on est capable d'organiser. Vous voyez, le genre, ça c'est une distinction tout à fait du conditionnement humain. J'arrive aux définitions. Je reste dans une étude tout à fait générique et logique. Avoir des méthodes très propres là. Puis alors je peux essayer d'avoir une méthode proprement philosophique. Dans la méthode proprement philosophique, qu'est-ce que je recherche? C'est la science qui cherche des causes propres. Est-ce que ici je saisis les causes propres en cherchant le genre? Est-ce que le genre est cause propre? Point d'interrogation. Ah, grosse question. Quand vous lisez le livre de Monod sur le point de vue de la nécessité, le hasard, et quand il cherche l'origine de la vie, il cherche l'élément générique de tout vivant et dit qu'elle est cause. Oui, confusion entre les deux. Confusion entre une méthode logique et une méthode philosophique. Je crois que c'est la confusion radicale de toute science moderne, aujourd'hui. Je crois. Ça m'a beaucoup frappé dans le livre de Monod. C'est vraiment ça qui est la confusion. On ne sait plus ce qu'est la cause. Au fond, on confond la loi et la cause. Parce que l'aspect générique peut-être nous donne des lois communes. Alors là aussi, on se demande si la connaissance générique, avec le point de vue spécifique, nous permet d'établir des lois. La loi est une relation, ce n'est pas une cause, au sens strict. c'est une relation. Alors, si c'est une relation, ça peut être au niveau d'un être de raison, donc au niveau d'un universel. Tandis que le principe et la cause sont toujours liés au chemin d'existence. Oui, là, vous êtes en face d'une abstraction. Une abstraction qui est différente selon les différents genres, les différents spécifiques, mais c'est une abstraction. Là, c'est une abstraction aussi, mais philosophique, tout à fait différente. Vous posez la question, pardon.
Est-ce que c'est pas l'erreur fondamentale de tout idéalisme, de mettre le genre comme cause?
Oui, au fond, en définitive, c'est toujours. Vous voyez, vous retrouverez ça en philosophie. Mais avec la négation du genre, vous voyez, parce que l'idéaliste part de l'idée, et l'idée n'est pas abstraite. Vous voyez? Au fond, l'idéaliste ne veut pas reconnaître que notre manière de connaître implique une abstraction.
Mais même si c'est inconscient, est-ce que de fait, c'est pas ça?
De fait, on comprend. On connaît toujours l'abstraction. Oui. Mais il part de l'idée.
L'homme en soi, par exemple, de Platon, est-ce que c'est pas finalement le genre humain?
Ah, c'est la différence spécifique. C'est du côté de la différence spécifique, l'homme en soi.
Mais c'est
du côté de la forme, vous voyez. C'est le télescopage de la matière, c'est la forme. Oui, c'est la confusion des prédicables et des causes. Ça, je dirais oui. Oui. Pas nécessairement le genre, parce que au fond, l'idéaliste ne connaît plus le genre. Parce que ex parte materiae. Continuons. Ce point n'est pas encore déterminé. Ça, c'est le côté extrêmement intéressant d'Aristote pour bien montrer qu'Aristote n'est pas du tout dogmatique. Quand Aristote fait des points de vue comme ça, c'est très intéressant. Aristote avoue qu'il est un chercheur. Et ça, je crois que dans le monde d'aujourd'hui, c'est très important de réhabiliter Aristote comme un chercheur, pas du tout comme un dogmatique. Alors, quand il y a ces aveux-là, on ne peut pas dire. Ce point n'est pas encore déterminé, non plus que le suivant. Faut-il que le naturaliste, à la manière du mathématicien dans ses études d'astronomie, considère d'abord les faits relatifs aux animaux et à leurs parties, pour expliquer ensuite le pourquoi et les causes, ou bien faut-il procéder autrement? Très intéressant, ça. Faut-il que le naturaliste, c'est-à-dire, hein, vous voyez bien, la philosophie de la nature. Donc faut-il que le philosophe de la nature soit à la matière du mathématicien dans ses études d'astronomie? Alors, faut-il considérer que la philosophie de la nature est subalternée à la logique? Subalterné à la mathématique, considère d'abord les faits relatifs aux animaux et à leurs parties, pour expliquer ensuite le pourquoi et les causes. Donc, faut-il d'abord qu'il parte des faits, des propriétés, pour découvrir ensuite le pourquoi et les causes, ou bien faut-il procéder autrement? Donc, c'est très intéressant qu'Aristote avait, au point de vue des parties des animaux, au fond, sa méthode, il la cherche. Il la cherche. Alors, de plus, en tout devenir naturel, tout devenir physique, en tout devenir naturel, nous observons plusieurs causes. Par exemple, la cause en vue de laquelle et la cause à partir de laquelle se fait le changement. En tout devenir, les deux causes sont la cause en vue de quoi, cause finale, et la cause à partir de laquelle se fait le changement, cause efficiente. C'est les deux causes qu'on saisit tout de suite dans le devenir vital. Il faut donc déterminer sur ce point aussi laquelle se trouve être première et laquelle est seconde. Mais c'est bien ça la méthode. La méthode, c'est saisir ce qui est premier. Et puis, on saisit ensuite ce qui est second. Donc, une méthode, c'est ordonner la recherche. Avoir une recherche ordonnée. Pour aller plus vite. Ça, c'est simple, mais c'est bien là où on saisit ce que c'est que la méthode. Hein. Il semble que la première cause soit celle que nous appelons en vue de quoi ? En effet, elle est logos. Alors là, nous tombons dans un point de vue extrêmement intéressant. Finitae de prote en legomen en ecoptinos. Logos gar autos. Donc la première semble être ce que nous avons vu de quoi. En effet, elle est logos. Donc elle est le logos et la raison est principe. Et le logos est arché, aussi bien dans les produits de l'art que dans ceux de la nature. Alors nous retrouvons l'analogie avec l'art. La fin est principe. Regarde le point de vue du devenir. Donc c'est logos. Parce que logos est arché. Ça, c'est un petit passage très important. Mais ce n'est pas un a priori. C'est Aristote qui nous montre là vraiment son point de vue propre. Le médecin commence par déterminer la petite leçon pour le médecin. Le médecin commence par déterminer, soit par raisonnement, soit par observation, ce qu'est la santé. L'architecte, ce qu'est la maison. Donc les exemples se prennent du côté de l'art. Et l'art médical, pour Aristote, est très important pour aider de comprendre ce que c'est que la biologie. Et on part du côté du médecin, vous voyez. La biologie est moins intelligible pour nous que l'art médical. Ça ne veut pas dire que l'art médical mesure le vivant. Ça veut dire que l'art médical nous aide à comprendre ce que c'est que la biologie. Vous allez comprendre analogiquement. Parce que l'art est toujours premier pour nous, comparativement à la connaissance spéculative. Nous avons déjà vu ça en physique. Ça, c'est très important. Parce que ce n'est pas du tout ennemi aujourd'hui. Hein. La science donne le pas à l'art aujourd'hui. Très curieux. Hein. L'artiste est un homme du fait. Le médecin, s'il est un artiste, regarde le fait. Et non pas le principe en premier lieu. Le médecin commence par déterminer, soit par raisonnement, soit par observation, ce qu'est la santé. L'architecte, ce qu'est la maison. Ils rendent compte par là des raisons et des causes de leur démarche et du pourquoi de leur action. Donc, en vue de quoi ? Or, il y a davantage de finalité et de beauté dans les œuvres de la nature que dans les fabrications humaines. Là aussi, c'est à souligner trois fois. Partie de ces visions d'Aristote extraordinaires. Or, il y a davantage de finalité et de beauté dans les œuvres de la nature que dans les fabrications humaines. Alors là, c'est juste l'opposé à Hegel. Hegel dit que c'est grâce à l'art que je peux goûter le chant du rossignol. Je dirais que c'est grâce au chant du rossignol que je peux avoir un sens musical. davantage de finalité. C'est très très... Il faut faire grande attention à tout ça. C'est pas si commode. Hein. Or, il y a davantage de finalité et de beauté dans les œuvres de la nature que dans les fabrications humaines. D'autre part, la nécessité à laquelle certains s'efforcent de réduire à peu près toute raison faut de distinguer les acceptions diverses de nécessaire. Faut de distinguer les acceptions diverses de nécessaire ne se rencontrent pas de façon identique dans toutes les œuvres de la nature. Nécessité absolue dans les êtres éternels, nécessité conditionnelle dans tous les êtres soumis au devenir, de même que dans les objets artificiels. Attention, hein, quand Aristote parle de la nature, il ne parle pas nécessairement de la nature soumise à la contingence, c'est même l'inverse. La nature, pour lui, c'est en premier lieu les êtres nécessaires. Or, c'est justement cette nature que nous récusons. Vous voyez, hein ? Comme c'est complexe.
Oui. Est-ce que ça veut dire que dans les réalités sont, qui existent sont ordonnées plus immédiatement à leur fin, ayant une unité plus forte en raison de leur aspect réel que les réalités fabriquées par les hommes.
Mais,
donc elles ont plus de finalité.
Oui, mais la nature ici, c'est les corps célestes. Et pour vous, les corps célestes, que ça représente ? Mais c'est complexe, hein ? Je reprends, parce que pour que nous voyons bien, c'est très important ce passage. Hein ? Vous voyez, c'est très important, parce que c'est toute la question, au fond, classique. C'est comme ça du reste qu'on dit, explication biologique, mécanisme et finalité. Qu'on représente exactement dans Aristote le primat de la finalité. C'est comme ça qu'on devrait poser le problème. Que représente exactement Aristote le primat de la finalité ? Vous voyez que ce primat de la finalité se découvre par l'art. Et l'art, en nous faisant découvrir le primat de la finalité de la nature, s'efface devant la nature. Alors vous voyez bien, toujours, toujours chez Aristote, le premier génétique est le premier selon de nature. Distinction qu'on ne voit plus aujourd'hui. Alors, le premier génétique, l'art, c'est évident. C'est l'art qui nous donne en premier lieu le sens de la finalité. C'est pour ça que si on ne fait plus une philosophie de l'art, on ne sait plus ce que c'est que la finalité. C'est par l'art que vous découvrez la finalité. C'est pour ça que le médecin, là, joue un rôle très important. Parce que normalement, un bon médecin est toujours finalisé, hein. Qu'est-ce qu'il recherche ? C'est la santé. Il le sait. Un médecin qui ne recherche plus la santé n'est plus un médecin. Il cherche la santé. Avec tous les labyrinthes qui sont aujourd'hui de rechercher la santé. Le médecin cherche la santé. Donc il est finalisé. Comme tout artiste. Un artiste, architecte, il veut construire une maison. Et l'architecte qui construit une chapelle, qui construit un couvent, qui construit une maison, c'est pas la même chose. Maison bourgeoise, couvent, chapelle. Et ne faisons pas de la chapelle une maison bourgeoise. Oui, parce que quelquefois c'est comme ça qu'on conçoit une chapelle. De bons fauteuils bien rembourrés pour qu'on puisse assister paisiblement à la messe. Bien, si vous avez de bons fauteuils bien rembourrés pour assister à la messe, vous n'assisterez pas à la messe, mais à la finalité. Bon, premier dans l'ordre génétique et le premier dans l'ordre de la nature. Ah, la nature est plus finalisée que l'art. Vous voyez, Aristote joue là-dessus, constamment. Et si vous prenez matériellement Aristote, vous serez tout le temps en contradiction. Parce que le premier génétique n'est pas le premier selon l'ordre de la nature, pour nous. Et alors, vous voyez, Aristote là est très astucieux. Hein. C'est par la finalité qu'il va montrer que cet ordre-là n'est pas scientifique. La finalité n'est pas saisie au niveau des prédicats, mais saisie qu'au niveau des causes. Et cependant, les prédicables sont premiers sur l'ordre unitique. C'est le conditionnement. Mais ce conditionnement premier, fondamental, je ne peux pas l'abandonner. Je dois passer par là. Mais ce n'est pas le premier sur l'ordre de nature. Le premier sur l'ordre de nature, c'est la découverte des causes. Oui, alors c'est ça qui est tellement difficile dans la pensée aristotélicienne. C'est que nous ne pensons plus ça. Nous appliquons, nous, notre manière de penser kantienne ou cartésienne à partir des idées. Oui.
C'est quand même très intéressant, je veux dire, par rapport à ce problème, chez Occam, il n'y a que deux causes qui demeurent. C'est la cause efficiente et la cause finale.
Oui. Mais la cause finale chez Occam est détruite. Ouais, c'est plus la finalité.
Oui, parce qu'il se place à un niveau logique.
Oui, donc il n'y a plus de causalité finale.
Oui, parce qu'en fait, ce n'est que la proposition qui est la cause finale.
Au point de vue logique, il n'y aura plus que les prédicables. Et c'est ce qu'on voit chez Occam.
Oui, mais pourquoi il maintient les deux causes?
Il maintient parce que c'est le langage. C'est uniquement maintenu au point de vue du langage. Comme chez Descartes. Vous voyez, c'est ce que montre très bien Gilson, là. Il faut reconnaître que Gilson a découvert certaines choses. Quand il fait, il faudrait faire ce que Gilson a fait pour Descartes, le faire pour Occam. Ce serait plus intéressant pour Occam encore que pour Descartes. Montrer que chez Descartes, tout le langage scolastique est présent. Chez Occam, tout le langage scolastique de Don Scott et de Saint Thomas est présent. Mais la signification est tout autre. Vous voyez ? Alors, on le voit d'une façon parfaite dans sa logique. Et ça, ce serait assez facile à faire. De voir tous les termes qu'il emploie. Vous voyez, reprendre ce que Descartes, ce que Gilson a fait pour Descartes, le reprendre pour Occam. Parce qu'on verrait là comment le langage continue. Il est tributaire d'un langage qui vient de Don Scott et qui vient de Saint Thomas. Et qui vient d'Henri de Gand. Donc il est tributaire de ce langage. Le langage du néoplatonicien et d'aristotélicien est le même. Au point de vue du langage. Mais les significations sont tout autres. Occam emploie encore, comme Don Scott, le point de vue de la causalité finale. Et Don Scott est loyal et dit causalité métaphorique. La fin, la causalité finale pour Occam, pour Don Scott, causalité métaphorique. C'est-à-dire une causalité qui n'est plus réelle, qui n'est qu'au niveau du langage.
Pour ça, c'est, chez Occam, c'est très net, parce oui. que la cause efficiente, c'est le sujet, et la cause finale, c'est le syllogisme.
Oui. Donc il n'y a plus de causalité finale. Ça disparaît. Mais il maintient les mots. Et c'est là l'équivoque. Vous voyez ? Et un pur logicien ne peut pas saisir ça. Puisqu'il est au niveau des mots. C'était le dialogue que j'avais fait avec quelqu'un de Fribourg, n'est-ce pas ? Pour essayer de comprendre la logique d'Occam par rapport à la logique d'Aristote. Et alors au point de vue des mots, quand on reste uniquement au point de vue des mots, on dit mais c'est la même logique, c'est la continuité, et pas du tout, tout est changé. On met derrière les mots une autre signification. C'est l'heure. Alors, je reprends quand même ça. De plus, en tout devenir naturel, nous observons plusieurs causes. Par exemple, la cause en vue de laquelle et la cause à partir de laquelle se fait le changement. Il faut donc déterminer, sur ce point aussi, laquelle se trouve être première et laquelle seconde. Ça, c'est capital. Pour trouver une méthode, il semble que la première cause soit celle que nous appelons en vue de quoi ? phainetai, prote. Alors, sunite phainetai, c'est pas une détermination dogmatique. Ça, c'est pas la première cause. Non, il semble, phainetai, on est dans la recherche. Il semble que la première cause soit celle que nous avons vue de quoi. En effet, elle est logos. Alors, traduit raison, je sais bien que c'est difficile de traduire autrement. Raison, logos. Et le logos est principe. Aussi bien dans les produits de l'art que dans ceux de la nature. Le médecin commence par déterminer, soit par raisonnement, soit par observation, ce qu'est la santé. L'architecte, ce qu'est la maison. Il semble, ils rendent compte par là des raisons et des causes de leur démarche et du pourquoi de leur action, par la finalité. Or, il y a davantage de finalité et de beauté dans les œuvres de la nature que dans les fabrications humaines. Quand juste inverse, il passe du premier génétique au premier sur l'ordre de nature. Si je n'ai pas ça en tête, je dis, mais Aristote est en contradiction avec lui-même. Matériellement, il est en contradiction. Ils rendent compte par là des raisons. Or, il y a davantage de finalité de beauté dans les œuvres de la nature que dans les fabrications humaines. D'autre part, la nécessité à laquelle certains s'efforcent de réduire à peu près toute raison, faute de distinguer les acceptations diverses nécessaires, ne se rencontre pas de façon identique dans toutes les œuvres de la nature. Analogie entre art et nature, analogie à l'intérieur même des œuvres de la nature. Nécessité absolue dans les êtres éternels. Nécessité conditionnelle dans tous les êtres soumis au devenir sublunaire. De même que dans les objets artificiels. Maison, ou quoi que ce soit de semblable. Telle matière est nécessaire si telle maison doit être réalisée. Ou quelque autre fin. Il faut que ceci soit produit, transformé, et ceci encore, et ainsi de suite, sans interruption, jusqu'à la fin. Jusqu'à ce en vue de quoi chaque chose est produite et existe. Pariment dans ce que produit la nature, mais la forme de la détermination, mais la forme de la démonstration et de la nécessité n'est pas la même dans la science de la nature et dans les sciences théorétiques. On l'a exposé dans d'autres ouvrages à ce sujet. Alors, en effet, que dans les unes, c'est ce qui est principe, dans l'autre, c'est ce qui doit être. Mais c'est complexe, hein. C'est pas simple du tout.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.